C'est avec une grande ouverture, puis beaucoup de délicatesse que j'ai enregistré ce podcast avec Marie-Ève. Je te parle maintenant à l'extérieur, peut-être que tu entendras les petits oiseaux. C'est bien d'entendre les oiseaux parce qu'on parle d'un sujet, comme je te disais, un peu sensible, délicat, la violence conjugale. Je t'ouvre une porte sur mon expérience et évidemment, ben, Marie-Ève, qui est psychologue, mais aussi qui a vécu de la violence conjugale, va te parler aussi un peu de son expérience. Si tu as envie de partager cet épisode pour peut-être aider à ta manière une personne qui en est victime, ben vas-y. Ne doute pas. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les mille et une choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais, belles sorcières, et on dépoussière ce qui est déjà là. Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast Sorcellerie Blanche. Aujourd'hui, on vient parler d'un sujet délicat. J'ouvre même une porte que j'ai rarement ouverte dans ma vie privée. Et qui de mieux pour en parler qu'une personne que je sens tellement compétente, mais aussi dans un espace hyper sécuritaire. J'ai déjà fait un podcast avec elle dans le passé, vous irez l'écouter, c'est sur l'hypersensibilité. Je parle avec Marie-Ève aujourd'hui. Marie-Ève est psychologue. On vient parler des coulisses, des subtilités de la violence conjugale. C'est un sujet qui est hyper délicat, mais qu'on a eu l'appel les deux. De parler. Tout d'abord, je vais te la présenter à nouveau. Comment tu vas, Maria?
Allô, ça va bien. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec toi. C'est la première fois que j'accepte une invitation dans un podcast pour en parler parce que pour moi, c'est un sujet très émotif d'abord, mais tellement important aussi pour briser les tabous, donner de l'espoir justement aux femmes. Puis je savais par ton intégrité, quand tu m'as demandé de participer à cet épisode-là, ça m'a fait comme une grande ouverture, tu sais, d'accepter pour pouvoir justement créer cette connexion-là puis briser les mythes.
Écoute, je te relance le même genre de compliment parce que je vais juste vous mettre en contexte, là, les sorcières qui écoutent, c'est que j'ai vu passer Marie-Ève il y a quelques mois, là, ça va faire presque un an. Commencer à parler de ça parce qu'elle a vécu cette expérience. Et puis, Marie-Ève, c'est une femme qui est hyper intelligente, c'est hyper, je l'ai accompagnée dans le momentum, je l'ai vue se développer. Puis quand j'ai vu ça, puis qu'elle a eu le courage de mettre en lumière un sujet qui est si tabou, hein?
Ouais.
C'est tabou, comme tu disais, c'est trop graphique des fois, mais des fois, il y a des subtilités dans la violence, là.
Totalement, oui.
Quand je t'ai vu parler de ça, tu te rappelles, j'ai dit, Marie, je pense qu'il faut qu'on en parle dans le podcast parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Il n'y a pas grand monde qui le sait. Ça a été pour moi une période très traumatisante dans ma vie. Moi, on voulait me tuer, là, tu sais.
Oui.
J'allais me marier, là. Puis je me suis sauvée. Il a fallu que je me cache. Puis je suis partie à l'autre bout du monde, mais ça a été ouf. Fait que j'ai dit, Marie, je pense que ça y est, on est prête, on y va.
Oui, totalement.
Oui, raconte-nous un peu, toi, t'es qui, pourquoi on vient parler de ça aujourd'hui dans tes yeux à toi, là, dans ta perspective?
Bien, c'est ça. T'sais, moi, j'ai vécu une relation de violence conjugale pendant 15 ans. Donc, on en parlait là, tantôt, à quel point c'est difficile de sortir d'une relation de violence conjugale, d'abord d'en prendre conscience de ce que l'on vit. Mm-hmm. Malheureusement, on parle souvent de la violence conjugale quand il y a des événements tragiques, comme des féminicides, par exemple, des femmes qui ont eu des blessures extrêmes. Et souvent, ce que ça fait, puis c'est important d'en parler, mais ce que ça fait, c'est que ça donne l'impression aux femmes qui vivent de la violence psychologique, économique, sexuelle, émotionnelle, que c'est pas de la violence ce qu'elles vivent. Et ben, ça fait en sorte qu'on le vit en silence et qu'on va pas chercher d'aide. Oui. Et moi, j'ai vécu ça pendant 15 ans et c'est au moment de me séparer, quand j'ai pris la décision de me séparer, qu'il y a eu une escalade de violence, comme on a l'habitude de voir, parce que le moment de la séparation, c'est le moment le plus dangereux pour une femme qui vit de la violence conjugale.
Oui, exactement.
Parce que l'homme perd complètement le contrôle, donc il va tout faire pour reprendre le contrôle, jusqu'à des comportements de féminicide, comme on peut voir.
Oui.
Et c'est là qu'il y a eu comme une tempête dans ma vie, là, il y a 2 ans et demi de ça. Et puis, à la force de traverser cette tempête-là et de retomber tranquillement sur mes pieds, puis de me rendre compte que il manque quand même de services, tu sais, qu'on peut s'offrir à ces femmes-là pour les soutenir, que j'ai eu le goût. Et comme je te disais, tu sais, les synchronicités de la vie, j'ai eu de plus en plus de demandes de femmes qui vivaient de la violence conjugale. Ouais, c'était tellement...
J'en ai des frissons. Ouais,
c'est tellement comme autant qu'on sait...
Mais elle ne savait pas ton histoire encore. Là.
Non,
mais
non,
elle venait vers toi pour aller chercher l'accompagnement de la psychologue que t'es.
Oui, tout à fait. Puis là, tranquillement, ben j'ai développé cette expertise-là dans le sens que je l'ai vécu de l'intérieur. Donc, je sais exactement quand une femme me parle de quelque chose, je sais ce qu'elle veut dire.
Oui.
Mais aussi d'aller me chercher des outils puis des formations pour justement bien les encadrer, ces femmes-là, bien les soutenir, assurer leur sécurité puis tout le processus de guérison suite à une relation de violence conjugale. Parce que ça peut être très long, justement, ce processus-là. Puis tranquillement, là, je dirais, là, presque 50% de ma clientèle, c'est des femmes qui ont vécu ou qui vivent la violence conjugale.
Wow! Ouais. Ben, wow, wow! Dans le sens, oh mon Dieu, il y en a tellement encore, puis c'est silencieux. Ouais. Puis wow pour elles qui sont arrivées jusqu'à toi. Quelle meilleure personne que de parler avec une femme qui va avoir des outils, un encadrement, mais aussi toute cette compassion, puis cette sécurité, c'est un espace. Il faut qu'on ait un espace sécuritaire quand on parle de ça. Là.
Ah oui, tellement, parce que moi, ce que je remarque, c'est que souvent, on va donner la pointe de l'iceberg. Donc, c'est comme si on ose ouvrir un petit peu sur qu'est-ce qu'on vit, puis on essaie de voir comment l'intervenant ou la thérapeute va réagir. Et si la porte se ferme ou qu'on se fait invalider ou qu'on n'est pas reçu, ben on va se taire, tu sais.
Oui.
Alors, c'est très important quand on sent qu'il y a de la violence conjugale, si on n'est pas à l'aise de référer à quelqu'un qui est spécialisé dans ça, parce que les impacts peuvent être vraiment importants, tu sais.
Oui, mais t'en as eu une expérience, toi.
Ouais, exactement. Tu sais, moi, je suis allée consulter avant, ça fait plusieurs années de ça, là. J'avais juste un enfant dans ce temps-là, fait que j'avais été consultée parce que j'avais dans l'idée possiblement de me séparer. Puis j'avais ouvert un peu sur qu'est-ce que je vivais dans ma relation, puis c'était pas mal intentionné là de la thérapeute, mais c'était, je pense, c'était un manque de connaissance de ce qu'est la violence justement.
Oui,
puis elle m'avait dit c'est peut-être juste la mauvaise gestion de la colère, puis peut-être que toi tu pourrais faire ça pour pas le faire réagir. Puis ouais, c'est ça, ça l'avait fait en sorte que ça m'avait beaucoup remis en question et j'étais des années après à pu ouvrir cette porte-là, tu sais, à me dire, ben c'est peut-être moi, peut-être que justement je pourrais faire quelque chose ou je fais pas assez quelque chose ou je devrais faire moins, tu sais, pour pas provoquer ces escalades de violence-là.
Et c'est ce que tu as fait pendant une autre dizaine d'années.
Exactement. Jusqu'à temps qu'il y a comme la goutte qui fait déborder le vase. Puis là, souvent, on va me demander c'est quoi? Si c'est quel moment que tu sais qu'il faut que tu te sépares, chaque femme, c'est différent, mais il arrive un moment où on sent que l'élastique pète. Tu sais, c'est comme on est tiré, il n'y a plus de jus, puis là, il va avoir comme...
Moi, ça a été ça, là.
C'est ça,
moi, je me rappellerai toujours du moment où j'étais revenue de travailler parce que monsieur ne travaillait pas. C'est moi qui le faisais vivre.
Ouais.
J'étais revenue de travailler et j'avais pas acheté ce que lui avait envie de manger. Et puis, il s'est fâché. Puis, il est sorti aller fumer une cigarette. Puis moi, j'ai entendu une voix qui m'a dit « c'est le moment ».
Wow.
C'était ridicule, là, comme tu dis, l'élastique a pété dans un... Je veux dire, j'avais juste pas acheté qu'est-ce qu'il voulait, si on regarde ça en échelle. Hein?
Ouais.
Mais là, après ça, c'était... Oui, je me rappellerai toujours ça.
Il y a comme un moment, c'est comme tu sens que ta limite est atteinte, puis tu as aussi le courage de dire « c'est là, c'est là ».
Oui.
Puis là, comme tout ce... Puis moi, comment que j'ai fait, c'est que je l'ai nommé à ma famille ce que je vivais. Parce que c'était comme une façon de me protéger de moi-même. Je savais que si je le disais, je ne retournerais jamais.
Oui,
que si j'ouvrais sur qu'est-ce que je vivais, jamais je retournerais. Donc, c'est une façon pour moi de me protéger.
Oui.
Puis ça l'a fait en sorte que, jusqu'à ce jour-là, puis je ne retournerai pas. Ça, c'est clair pour moi maintenant. Mais tu sais, puis souvent, on va se demander, mais pourquoi que les femmes restent? Hein?
Mm. Oui. Moi, je pense que c'était la peur. Si,
ah, oui.
Mais moi, c'était une violence qui était aussi dormante. Là. Tu sais, quand on habitait dans les Caraïbes à l'époque, il m'avait dit on va retourner au Canada, c'était en Colombie-Britannique, puis je vais aller faire mon cours de soudure, parce que sous-marine, là, lui, c'est un plongeur. Puis, fait qu'il m'avait ramené dans un coin loin. Puis, on habitait éloigné, puis tout ça. Puis là, je voulais m'inscrire au gym, par exemple. Finalement, il n'a jamais fait ses études. Là. C'est moi qui s'est ramassé à payer puis travailler pour nous deux. Lui, il jouait aux vidéos toute la journée. Puis, je me rappelle, petits détails, tu sais, des petites choses. Je me rendais compte, mais en même temps, je ne voulais pas les voir. Mais tu sais, il m'avait dit, j'avais dit, je vais m'inscrire au gym. Puis, il m'avait dit, il y a un gym de femmes. Tu sais, je ne pouvais pas aller à l'autre gym parce que selon lui, les hommes allaient me regarder. Mm-hmm. Tu sais? Fait que là, j'allais dans un gym de femmes, tu vois. J'avais amené des compagnes de travail. Il y avait ri d'elle quand ils étaient partis, mes amis, là, c'était pas encore des amitiés, mais tu sais, j'essayais. Il y avait ri d'elle. Ils les avaient tellement dénigrés que je voulais plus réinviter personne chez nous. Tu sais, c'était toutes des petites choses comme ça qui font que finalement, tu t'isoles.
Tout à fait. Et là, l'emprise grandit, tu sais, le contrôle grandit parce que là, tu es seule.
Oui.
Oui.
Quand je l'ai quitté, là, tu sais, quand j'ai eu ce moment-là, ben, j'avais nulle part où aller, moi.
Mais non.
C'est où je me suis ramassée, chez sa mère à lui.
Mm.
Là, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Quelle belle visite. Puis je lui ai tout déballé mon sang.
Ouais.
Puis là, elle m'a dit, je pensais qu'il avait changé. Donc, elle m'a donné raison, puis c'est elle qui m'a cachée après ça dans une maison éloignée, elle m'a cachée de lui.
Wow.
Ça a été un ange pour moi dans mon chemin. Fait que le fait d'avouer comme toi m'a permis de me protéger moi aussi. Je me disais, s'il m'arrive quelque chose, au moins elle le sait.
Oui. D'avoir des alliés, c'est tellement important.
Oui. Oui.
Parce que effectivement, tu sais, on se retrouve. Complètement isolé, seul, souvent sans ressources aussi parce que, tu sais, juste au niveau des ressources, là, je parle même intérieur, là, comme des ressources au niveau psychologique, émotionnel, quand ça fait...
Moi, j'étais détruite, là.
Ben oui, quand ça fait des années que tu es dénigrée, que tu te fais remettre en question, qu'il y a de la manipulation, que tu te fais mentir, tu sais, la confusion, là, c'est, je pense que c'est l'arme principale des hommes qui font de la violence conjugale.
Voilà.
Tu sais, on dit... Pourquoi qu'elle reste? Ben, elle reste parce que jour après jour, tu sais, c'est pas un épisode circonscrit dans le temps à la violence. C'est un climat de contrôle qui est installé jour après jour. Comme tu dis, par des petits commentaires, par du dénigrement de tes amis, par des dénigrements de ce que tu fais, par un questionnement, par t'es trop anxieuse, par ta santé mentale, et tu sais, remettre ta santé mentale en question, tes choix de vie en question, ce qui fait que on est constamment dans un climat de confusion à se remettre soi-même en question et à perdre nos repères.
Oui, puis moi en plus il était aussi violent physiquement là, c'est pas beaucoup, mais je veux dire assez pour me dire ben voyons, je veux dire c'est inacceptable, là. Mais sur le moment, tu sais, tu te dis, on s'est juste vraiment engueulé, puis ça a juste monté la... Mais non. Mais non. Oui. Tu sais, je suis mariée, là, ça fait 18 ans avec un homme, puis non, on n'a jamais eu ça, là.
Mais non, c'est ça. Mais tu sais, puis il y a tout le sigle de la violence aussi, tu sais, ils ne sont pas toujours méchants, là, tu sais.
Mm-hmm.
Donc, on a rencontré un homme dont on est tombée amoureuse, qui était donc merveilleux et charmeur et tout ce qu'on désirait, tu sais, il nous faisait miroiter plein de choses, il nous a mis sur un piédestal, tu sais, c'est souvent des red flags aussi, tu sais, de tout de suite te mettre comme t'es la plus belle, la plus merveilleuse, de vouloir créer un engagement rapidement avec toi, fait que tu te sens tellement aimée, désirée, et là, whoop! On se met à glisser là, vers un épisode de violence. Et là, la personne, après ça, se déresponsabilise, rejette la faute sur toi. Tu le sais que j'étais stressée, tu me fais fâcher.
Mm-hmm.
Et là,
après
ça, il revient celui que tu as rencontré. Donc, tu dis, c'est possible, il peut exister, cet homme-là, parce qu'il revient.
Je vais le sauver.
Oui, c'est ça. Fait que c'est toute cette dynamique-là, tu sais, qui est difficile à comprendre si on l'a pas vécu vraiment. On peut se dire, puis tu sais, je l'ai dit moi aussi, là, avant de vivre ça, tu sais, moi, je vivrai jamais ça, j'accepterai jamais ça. Mais il y a aucune femme qui accepte ça. Tu sais, tu es prise dans cette dynamique-là.
Hey, moi, je m'en rendais même pas compte. Puis,
non?
Tu sais, je me suis dit souvent, moi qui est ici, tu sais, je pensais là, que j'étais en contrôle puis que je suis une femme qui est forte, puis j'ai aussi, malgré moi, été dans l'œil de la tornade d'une relation comme ça. Puis, je m'en suis même pas rendu compte comment je suis arrivée là.
Oui.
Puis, Le moment de déclic, c'est quand j'ai envoyé les faire-part. On se mariait, là, 3 mois plus tard. J'ai envoyé les faire-part, puis là, j'ai fait comme, mais t'es folle. J'ai entendu une voix comme ça. Mais t'es folle. Sincèrement, là, tu vas aller jusqu'à quel point j'avais la robe. Tout était... puis on avait 2 mariages, puisqu'on venait de 2 provinces différentes. Tout était... Puis, je sais pas si ça... Parce que toi, t'as plus de cas, là. Mais moi, quand j'avais annulé le mariage, là... Il n'y avait personne qui m'avait vraiment demandé pourquoi. C'est comme si... Puis je m'en rappelais l'autre jour, j'en parlais avec mon mari, j'étais là, il n'y a pas personne qui m'a dit « Est-ce que ça va? » Comme si les gens, ils sont intimidés, ils ne veulent même pas te le demander.
Oui, oui.
Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent dans ce que toi, tu as pu observer?
Moi, ce que j'observe, c'est beaucoup d'incompréhension de l'entourage, tu sais. Puis les gens... Bon, tu sais, tolérer la détresse humaine en général, on est généralement pas tellement bon là,
ouais, non,
à faire ça.
Ouais.
Et là, on est dans quelque chose d'extrême, tu sais, puis les gens, on a encore cette idée-là de comme c'est pas de mes affaires, tu sais, je m'en mêle pas, c'est des chicanes de couple. Mais tu sais, la violence conjugale, c'est une responsabilité sociale à mon avis.
Oui.
Chaque personne... Oui. Porte cette responsabilité-là, on a le devoir justement de se lever puis de dire qu'il y a une problématique au niveau des rapports hommes-femmes et qu'on c'est à chacun de prendre responsabilité parce que si chacun se dit ben c'est pas de mes affaires, je m'en mêlerai pas, ça va continuer. Tu sais, les hommes ont aussi un devoir là-dedans aussi de se lever puis de dire ça n'a pas de bon sens, tu sais, puis d'élever cette voix-là que c'est pas comme ça que ça devrait se passer, tu sais, au niveau des relations hommes-femmes, mais on dirait que les gens veulent... Puis tu sais, il y a beaucoup ça, c'est une chicane de couple, ben, tu sais, c'est parce qu'il t'aime qu'il fait ça, il y a tout ça à défaire, tu sais, c'est pas de l'amour, ça c'est du contrôle, c'est pas de l'amour.
Oui.
Quand tu aimes quelqu'un, là, tu fais attention à cette personne-là, tu sais.
Oui, oui, tout à fait. Puis là, j'ai envie, pour ceux qui nous écoutent peut-être, là, puis je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi, ça vient dans les deux sens. Aujourd'hui, on parle avec l'homme parce que c'est ce qu'on a vécu puis qu'on est des femmes, mais je connais aussi des femmes, j'en connais 2, entre autres, qui ont fait violence à des hommes. Fait que c'est juste les propos qu'on a aujourd'hui, ça vient vraiment dans les deux sens.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales, puis on peut se dire ça, malheureusement, oui, effectivement.
Oui, puis tu sais, comme tout à l'heure, on disait, c'est quand le meilleur moment, tout ça. Est-ce que tu as des petites étapes ou des petites choses ou des petits trucs qu'on peut peut-être analyser ou devenir l'observatrice de notre quotidien pour monter des drapeaux puis dire « Oh, peut-être que là. Oh, peut-être que là. Tu en as nommé tout à l'heure qui m'ont fait beaucoup de sens. Est-ce que tu en as d'autres aussi?
Bien, je dirais que principalement, ça va falloir que ça vienne de l'intérieur. Donc, il faut vraiment sentir qu'on est prête et faire, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on intervient auprès des femmes qui vivent la violence conjugale, c'est faire confiance à la femme. Parce que c'est elle qui connaît son conjoint, c'est elle qui sait jusqu'où qui est capable d'aller, puis c'est quand le bon moment de partir. D'insister ou de mettre la pression sur quelqu'un pour quitter une relation de violence conjugale quand c'est pas le bon moment, ça peut la mettre plus à risque, plus en danger. Donc ça, c'est pas évident parce qu'il faut aussi tolérer notre sentiment d'impuissance justement à voir la personne rester dans une relation de violence conjugale, mais des fois, c'est effectivement pas le bon moment de quitter. Donc, faut comme écouter notre petite voix intérieure, on va le sentir quand c'est le bon moment. Mais surtout que quand on a cette idée-là de peut-être que je veux mettre fin à la relation, ça va être d'aller se faire accompagner, d'aller chercher de l'aide, d'appeler par exemple SOS Violence Conjugale qui ont un service 24/7 qui peuvent nous donner des services confidentiels. Les maisons d'hébergement pour femmes offrent aussi un service téléphonique qu'on peut appeler sans dire nécessairement notre nom, sans obtenir des services à l'interne.
Ouais.
Et on va avoir besoin d'un filet de sécurité, ça c'est certain.
Oui. Oui, c'est tellement important. Puis d'avoir des fois aussi une personne qui est extérieure à notre cercle.
Oui, oui.
Il y a vraiment un regard sur la personne ici, maintenant et la situation, sans connaître tout le autour. Là.
Oui.
Moi, je me rappelle, tu sais, quand j'en ai parlé à une personne, cette personne-là me connaissait pas mon ex, rien de ça. Donc, ça m'a permis de me sentir accueillie dans ce que j'avais de besoin à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Tu sais, je pense que c'est vraiment d'avoir des piliers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Parfois, on a besoin d'en avoir plusieurs parce qu'on ne va pas aller chercher la même chose avec chacun des piliers. Puis aussi parce que, on ne se mentira pas, là, mais c'est lourd. Notre réalité, elle est lourde. Donc, on a peur aussi de brûler notre entourage puis nos ressources. Puis effectivement, ça peut être difficile pour les gens autour d'entendre ça, d'entendre toutes ces situations traumatiques-là qu'on a vécues.
Oui.
Donc, des fois, on
C'est ça que je disais tout à l'heure. Moi, j'avais l'impression que tout le monde banalisait. Personne ne voulait vraiment. Ouais. C'est comme, même, je te jure, j'ai senti que personne ne me croyait.
Puis je peux croire. Ouais.
Il y a une personne qui je l'ai raconté, puis elle a pleuré, puis elle a dit, je ne savais pas. Une personne proche de moi là, qui était comme une pente. Là.
Oui.
Puis ça a été la seule personne qui est devenue émue quand j'ai vraiment raconté, puis je n'ai pas tout raconté les détails, mais donc je me suis questionnée à dire peut-être c'est moi qui exagère ou peut-être c'est moi qui ça travaille l'estime de soi, là, c'est incroyable.
Oui. Ben tu sais, moi c'est mon ami psychologue qui m'a vraiment supportée là-dedans.
Ah oui.
Parce que là, comme quand on s'est séparés, il envoyait des messages à mes collègues, il envoyait des messages comme disant que j'étais ci, j'étais ça, que les répercussions peuvent être extrêmement grandes. Là.
Oui, moi aussi, il l'a fait.
Puis, tu sais, elle est revenue vers moi, puis là, tu sais, elle m'a vraiment supportée, puis elle me croyait, tu sais, puis elle me disait, là, faut que tu fasses ça. Elle m'a beaucoup orientée, tu sais, puis ça a été très supportant pour moi, mais effectivement... Oui. On peut pas se laver les mains puis se déresponsabiliser là, tu sais, c'est important aussi d'assurer la sécurité des gens aussi, tu sais, c'est étonnant quand même.
Oui, puis dans ton cas, moi j'avais pas d'enfant rien là, dans ton cas, c'est aussi pour les enfants, tu sais, arriver à trouver le juste milieu puis la manière, tu sais, il y a pas de bonne manière, j'imagine, là. La manière de gérer tout ça.
Ça, c'est une, tu sais, c'est une forme de violence post-séparation. Tu sais, on dit qu'il y a 6 formes de violence post-séparation, mais les enfants vont souvent être un médium par lequel l'ex-conjoint va pouvoir continuer d'émettre ses comportements de violence.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, des fois, on pense qu'une fois que la séparation, elle est faite, la personne est en sécurité, mais non.
Mm-mm.
C'est ça qui est assez particulier avec les victimes de violences conjugales. En thérapie, on veut amener la personne à diminuer son niveau d'anxiété puis à revenir dans un sentiment de sécurité dans son corps, mais tout en restant avec un filet de sécurité et en acceptant qu'il n'y aura jamais de risque zéro.
Oui.
Ça, c'est assez particulier parce qu'il y a peu de gens qui peuvent comprendre ça, que quotidiennement, je dois quand même assurer ma sécurité parce que je ne suis pas certaine. C'est assez particulier, puis c'est très difficile à concevoir, tu sais, surtout ici, là, au Canada, là, comme on a cette chance-là, là, de vivre en sécurité.
Ouais.
Et pour les victimes de violences conjugales, elles n'ont malheureusement pas cette réalité-là.
Oui. Mm-hmm. Ben moi, je te dirais que je suis toujours restée un peu, pas sur mes gardes, mais je rêve souvent encore à ça.
Mm-hmm. Ah, je
me rappelle des choses, il y a des choses qui me reviennent, puis on s'entend que ça doit faire 20 ans de ça. Mais ça reste là, autant des bons moments, mais autant, c'est les bons moments, il fallait tout le temps que je les paye après.
Oui, ah oui.
Ah, ça ne pouvait pas être juste des bons moments ou tu sais, des moments un peu plus difficiles dans le couple et tout ça. Non, non, il fallait que je paye.
Oui, oui.
Puis ça, je n'aimais pas ça.
Ah non, je comprends. Ben c'est ça, tu sais, c'est souvent ils vont avoir de la difficulté à le tolérer qu'on est heureux, tu sais, mm-hmm. les moments de vacances, les moments d'aller chez nos parents par exemple en rencontre familiale, ils vont s'organiser souvent pour créer une chicane. Peu importe c'est quoi le prétexte, n'importe quoi pour s'assurer qu'on soit pas bien, hein. Puis, c'est difficile à concevoir ça parce que quelqu'un qui nous aime n'est pas censé faire ça, tu sais. Quelqu'un qui nous aime est censé vouloir notre bien.
Ben oui.
Fait que c'est pour ça qu'on se remet en question. On se dit, mais peut-être que j'ai une partie de la responsabilité là-dedans, tu sais, parce qu'il m'aime. Il n'est pas censé faire ça intentionnellement.
Oui. Je dois avoir fait quelque chose ou peut-être faudrait changer quelque chose en moi.
Mais oui.
Oui, vas-y.
Ben, c'est difficile d'accepter qu'on a pu être en relation avec un homme, tu sais, peu importe, tu sais, des fois, les femmes vont me dire 5 ans, 10 ans, 30 ans, avec un homme, mais qui m'a jamais réellement aimé, tu sais. Il aimait la façon dont je répondais à ses besoins, par exemple, mais est-ce qu'il m'aimait réellement? Puis elles se mettent à se rendre compte que c'est pas de l'amour, c'est du contrôle, mais là, il y a tout un deuil à faire, là.
Oui, c'est ça que j'allais dire, là, parce que moi, j'ai fait mon deuil à ma manière, mais je te disais, même avant qu'on en parle ici, on air, que je pense que j'ai jamais pris le temps vraiment d'aller, tu sais, guérir encore ça ou d'aller enlever la peur que j'ai vécue, parce que j'ai été quand même, pendant 3 semaines, j'étais cachée dans une maison, puis je recevais à peu près 45 messages téléphoniques là, par jour ou nuit.
Oui.
Et j'avais peur, là. Je me disais, il va découvrir je suis où, puis il va me retracer, puis tu sais, j'avais vraiment peur. Puis c'est comme si j'ai jamais fait le deuil. Peux-tu nous qu'est-ce que toi tu offres dans ton accompagnement et toi aussi de ton expérience, c'est quoi les étapes pour après guérir, tu sais, pour se reconstruire?
Je pense que c'est un long processus. D'abord, il faut comme accepter ça, tu sais, parce que souvent les femmes voudraient donc que ça soit rapide, là, tu sais.
Ben oui, génération rapido presto.
Ouais, ouais. Puis surtout, c'est une, tu sais, peu importe la durée de la relation, mais tu sais, c'est une relation souvent qui est très intense, hein. Fait qu'on a vécu des montagnes russes d'émotions.
Ah oui, moi, c'était très charnière. Très.
Oui. Autant dans le beau, mais autant dans le pire, tu sais. Fait que c'est, il y a beaucoup de, bon, il y a le deuil déjà, il y a la peine d'amour, tu sais, ça c'est quelque chose qu'on n'ose pas trop parler, hein, parce que on est censé, les gens vont dire, ben, tu sais, il ne mérite pas, t'es bien mieux sans lui,
c'était pas de l'amour.
Ben non, fait que là, on se sent mal d'être triste.
Oui.
Mais il y a quand même cette rupture-là qu'on doit intégrer, puis on a le droit d'être triste même s'il a fait des choses terribles, tu sais.
Oui.
Fait que, il y a déjà ça, je pense qu'il est comme très tabou, donc ouvrir sur ça, se permettre d'être triste puis de vivre sa peine d'amour. Mais ensuite de ça, ça va être de travailler à revenir dans un sentiment de sécurité dans son corps.
Tout à fait.
Parce que le corps était tellement meurtri, tu sais, de plein de façons.
Oui. Moi, j'étais tellement stressée, là. J'étais mince. J'étais petite, là. Puis, tu sais, mon corps était comme un enfant de 7 ans, là.
Bien, le système nerveux, il est constamment dérégulé. Tu sais, on est en mode alerte là, presque 100% du temps. Parce que, tu sais, des fois, c'est juste, tu es allé au Tim Hortons puis tu es pris dans la file d'attente au service
à l'hôpital. T'arrives pas.
Oui, tu arrives 10 minutes plus tard, puis là, tu vois très bien en rentrant dans la maison qu'il n'est pas de bonne humeur, puis tu sais que ça va être le déclencheur d'une escalade qui peut durer toute la journée, tu sais.
Oui, tout à fait.
Fait que ça, là, moi, ça m'a pris du temps, tu sais, ça m'arrivait après, mais ma mère a gardé mes enfants, tu sais, puis là, j'étais 10 minutes plus tard, puis j'étais comme, là, je la textais, j'arrive, puis elle me disait, ben prends ton temps, puis j'étais comme, ah! Puis à chaque fois, ça m'étonnait, tu sais, puis pas que c'était ma mère, là, je le savais, mais je me disais, waouh, dans quoi j'étais prise, tu sais, dans quoi j'étais prise, là, ça me faisait prendre conscience, comme ça, c'était mon quotidien, c'était mon normal, là.
Ah, j'ai des frissons.
Ouais.
J'ai des frissons. Tu me ramènes dans des choses que mon corps se rappelait pas, puis là, il s'en rappelle.
Ah ouais, je comprends. Tu sais, c'est ça, on en parle, puis tu sais, je sens mon corps se déréguler, tu sais, fait que juste d'en parler, de déprogrammer cette réponse d'alerte-là, de comprendre que je ne suis plus dans cet environnement-là, ça va prendre beaucoup de temps au corps de comprendre ça, puis de réguler le système nerveux. Puis il y a toute l'estime de soi aussi à travailler.
Oui.
Et après.
Moi, je te dirais, j'ai été ce côté-là, la vie, hein, j'étais guidée, c'est incroyable. J'étais portée, en fait. Puis, tu sais, je veux dire, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de en ligne, pas beaucoup de trouver des jobs en ligne. Puis, j'avais trouvé un emploi en ligne pour aller travailler sur les bateaux de croisière. Puis, ils m'envoyaient complètement à l'autre bout du monde en Russie. J'ai été portée, là, je ne sais même pas. Puis, en plus, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, tu vas travailler en animation. Et moi, j'avais l'estime de moi dans les talons. Je pensais que j'étais de la merde. Puis là, on était que 4 personnes qui travaillaient en animation pour animer un bateau de 2600 passagers. Fait que la vie, je te jure, la vie m'a portée parce que ça a été le job où je devais être contente, où je devais montrer une image, quelque chose de positif. Fait qu'à force de fake it until you make it. Ça, j'y crois. Dans des genres de trucs comme ça, j'y ai cru parce que je l'ai vécu. Ben, ça m'a pris comme un mois et puis j'avais reconstruit parce que je me rendais compte que oui, j'étais drôle, puis oui, j'étais gentille, puis oui, j'étais serviable, oui, j'étais généreuse. Moi, j'ai été chanceuse de ce côté-là, mais écoute, c'est un cas sur un million, là.
Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, l'estime de soi, c'est souvent un grand enjeu, là.
Prend du temps.
Ça prend du temps, effectivement, c'est ça. Puis après, il va y avoir tout le traitement des traumas, là, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va faire vraiment à la fin. Tu sais, pour moi, c'est super important que la personne soit capable de réguler son système nerveux d'abord. Parce que sinon, on peut juste déréguler davantage puis créer encore plus de flashbacks puis de cauchemars. Donc, c'est beaucoup d'étapes dans le processus thérapeutique. C'est un long processus, mais en même temps... Tu sais, souvent,
c'est
les femmes.
C'est un cadeau qu'on se fait.
Oui. Les femmes me disent, comme, c'est dur ce que je vis, mais comme, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Tu sais, c'est la plus belle chose que je me suis donnée, je me suis permis. Oui, c'est ça.
Puis toi, tes outils, là, parce que bon, t'es psychologue à la base et tout ça, est-ce qu'il y a des outils que t'as vus ou t'as découverts qui sont vraiment essentiels dans ta pratique pour ça?
Bien, moi, j'ai trouvé une thérapie qui me parle énormément, puis j'ai fait la formation qui est la thérapie sensorimotrice qui va intégrer les neurosciences, la pleine conscience, des aspects de la thérapie cognitivo-comportementale et qui me parle énormément. Puis c'est davantage passé par le corps pour réguler le corps.
Oui.
Ça, c'est quelque chose pour moi qui
me connais,
fondamental. Oui.
Moi, je suis vendue.
Oui, c'est ça.
Le corps, c'est notre meilleur allié tout le temps.
Totalement, là. Totalement.
Puis, j'aime aussi que tu dis les neurosciences. Fait que c'est le corps, mais aussi avec la tête.
Oui, exact.
C'est une belle balance entre les deux, là.
Vraiment. Puis je pense que pour les victimes de violences conjugales, c'est vraiment quelque chose qui s'apprête bien parce qu'on n'a pas besoin de revenir nécessairement dans le trauma graphique et raconter. Parce que c'est tellement honteux, humiliant, dégueulasse ce qu'on a vécu. Non, tu n'as pas le goût de le re-raconter à quelqu'un. Fait qu'avec cette thérapie-là, on n'a pas besoin d'aller dans ça. On a juste besoin d'aller dans le corps parce que le corps a ses mémoires. Fait qu'on va travailler avec les mémoires du corps. Quand on en parlait, on parle d'un sujet puis ça nous réactive.
Oui, tout à fait.
On a juste besoin de travailler avec ça. Pas besoin d'aller dans le souvenir cognitif, tu sais.
Oh mon Dieu, ça me parle. Ça me parle. C'est comme toi, tu les accueilles à partir d'aujourd'hui. Comment tu te sens? OK, tu as vécu ça. On n'a pas besoin de renommer tous les détails de je sais pas quoi. Comment tu te sens et comment tu veux te sentir?
Exactement.
J'adore.
Ouais. Ouais. Oui, parce que le corps va être réactivé de plein de façons. Tu sais, ça peut être un son, une image, une odeur. Puis on ne fera pas toujours le lien cognitif avec qu'est-ce qui vient me déréguler. Mais on n'a pas besoin. Oui. On a juste besoin de prendre soin du système nerveux puis du corps, tu sais.
Oui. Et c'est avec je veux donner un truc que j'ai découvert la semaine passée pour aussi pour réunir, comment on dit ça? Pour peut-être... avoir plus de compassion. Okay. J'ai mis une musique qu'on écoutait ensemble dans nos débuts et que j'aimais beaucoup l'écouter avec lui. Fait que ça j'ai remémoré des beaux souvenirs avec lui parce que, écoute, moi, ça fait 20 ans. Okay? Fait que je pense que je suis rendue là peut-être dans mes états.
Oui.
Mais ça m'a permis de mettre la douceur dans mes souvenirs avec lui.
Ah oui.
Je voulais juste le partager parce que, tu sais, moi au niveau de la musique, fait que je me rappelais de lui, mais avec des bons souvenirs. Fait que ça me faisait chaud dans le cœur. Puis c'est là que je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, le pardon a plusieurs étapes, là. Surtout le pardon envers moi. Moi, j'en ai jamais voulu trop à lui. C'est plus à moi que je m'en voulais. Je suis comme ça, moi, de personnalité. Ouais. Je m'en voulais de moi pas avoir vu, moi avoir resté, moi pas avoir eu le courage. Fait que je voulais juste le nommer pour s'il y a des femmes qui sont rendues là dans leur processus, peut-être que ça pourra les aider aussi.
Oui, non, vraiment, je trouve que c'est beau, tu sais. Puis effectivement, ça démontre, tu sais, il y a une évolution. Oui. Des fois, on a l'impression que hey, je vais être pris là-dedans, tu sais, comme toute ma vie, mais non, on finit par prendre conscience que ça va changer. Tu sais, je me rappelle quand j'avais parlé dans le creux de la tempête, il y avait un enquêteur qui m'avait appelé. Puis il m'avait dit, écoute, Marie-Ève, même si tu ne me donnes pas les preuves, c'est sûr que je l'arrête ce soir. Parce que les enquêteurs m'appelaient à tous les jours parce qu'on avait réellement peur là, que je meure, tu sais.
Oui.
Puis il y avait une dame du CAVAC qui les organise pour les d'aide aux victimes d'actes criminels.
OK.
Puis elle m'avait dit, mais tu sais, tu peux avoir de l'aide, tu sais. J'étais comme, ouais, mais tu sais, j'étais comme mal à l'aise vu que je suis psychologue, puis tu sais, c'est un petit milieu.
Oui, je vois.
Ben oui, puis là, elle me disait, mais tu sais, t'as le droit à cette aide-là. Puis là, j'avais dit, ouais, mais tu sais, c'est quand même humiliant parce que c'est quand même mon choix de conjoint. Tu sais, fait que ça, c'est quelque chose.
De soi.
Ben oui, tu te dis comme, tu sais, c'est quand même moi qui l'ai choisi, là.
Oui.
Fait que qu'est-ce que ça dit sur moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Tu sais,
on est tellement dur envers ça.
Ah ouais.
C'est comme si tu avais pu deviner tout ça. Là.
Mais non, c'est ça. Mais ça, c'est bon, qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est ça. Tu sais, des fois, quand on vit un trauma, on regarde la situation avec toutes les informations qu'on a, puis là, on juge nos décisions passées. Mais c'est comme si tu connaissais tout le déroulement du film, puis là, tu dis, ah oui, regarde, je le savais quand il est arrivé ça, c'est à cause de ça. Mais là, c'est parce que tu connais la fin.
Oui.
Mais dans le déroulement, du film, tu savais pas c'était quoi le dénouement final, mais c'est la même chose dans la vie, tu sais.
Oui.
Fait qu'on, quand on prend la décision, on la prend avec l'information qu'on a dans le moment, tu sais. Oui. Fait qu'on prend la meilleure décision qu'on pense à ce moment-là avec les capacités puis l'information qu'on a, mais tu sais, c'est ça, c'est que la violence, ça s'installe graduellement, puis plus qu'il y a du commitment, là, fait que plus qu'il y a des engagements, souvent la violence va augmenter. Fait que tu sais, après une fiançaille, après un mariage, après des enfants, après, tu sais, c'est que
une petite anecdote, là, moi, là, quand il m'a demandé en mariage, je me rappellerai toujours, il m'a dit, ce soir, on va aller manger au restaurant, ben j'ai commencé à avoir la nausée.
Ah ouais.
J'étais malade toute la journée. Je me suis forcée, je suis allée au restaurant. Puis en revenant du restaurant, il a fait arrêter le taxi sur le bord de la plage. Puis là, il a mis le genou par terre. Je me suis mis à brailler, nausée brailler. Puis là, je lui ai dit, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Puis là, il me disait, oui, mais là, réponds-moi, c'est oui ou c'est non. Puis j'étais tellement intimidée que j'ai dit oui.
Eh oui.
Ben, je ne savais pas quoi dire. Je me suis dit, si je dis non, c'est quoi qui se passe?
Ben, c'est ça.
Il va me jeter dans la mer, c'est quoi?
Oui, oui.
Fait que, tu sais, je veux dire, le corps me parlait, mais j'étais tellement intimidée, tellement prise. Puis je veux le nommer parce que là, je le sens dans mon corps, j'étais prise. C'était comme une pièce fermée là, avec un taureau.
Oui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de possibilité.
Tu n'en as pas de sortie.
Non, c'est ça, c'est ça.
Tu n'en as pas.
Non, exactement. Puis plus que les engagements se font, moins qu'il y a de sorties, parce que là, il y a des enjeux financiers. Tu connais cet homme-là. Tu dis, quand je vais me séparer, là, ça va être l'enfer.
Ben, moi, c'est sûr, il est parti avec tout l'argent. On avait un compte, puis je me suis ramassée sans rien, là, sans rien du tout. Puis il voulait briser ma voiture avec un marteau, je ne sais pas quoi.
C'est
non, c'était... Mais dès le départ, comme tu dis, c'est que ça commence avec un petit enfermement, puis après ça, il y en a plein d'autres. Oui. C'est comme on ne veut pas trop se poser de questions parce qu'on ne veut pas penser mal de l'autre ou on ne veut pas...
Oui, oui.
Non, c'est ça. D'y aller.
Ouais. Exact. Puis tu sais, des fois, on peut le trouver ça cute. On est comme, wow, tu sais, il m'aime vraiment parce qu'il veut me fiancer rapidement. Puis,
il se préoccupe de moi. Il me dit d'aller au gym de femme pour que je me fasse des amis, tu sais.
Ben oui, c'est ça. Puis c'est dit de cette façon-là aussi. Ils ont une capacité de manipulation souvent qui est assez exceptionnelle. T'sais, même des fois, les gens autour, j'ai plusieurs femmes qui me disent, t'sais, les gens autour ne pourraient jamais s'imaginer comment qu'il y a à la maison. Là,
ouais.
Fait que c'est pas, ça dépend de quel genre d'homme que c'est. Mais
ah non, moi, il était sweet. Jamais qu'on aurait pu deviner.
Ah, c'est ça.
Un regard angélique. Là,
oui, c'est des hommes habituellement très charmeurs. Donc, ils ont une façon aussi d'apporter ça, que tu dis, ah ben, tu sais.
Hein?
Puis là, c'est comme tu as la main prise dans l'engrenage, tu sais. Puis là, plus ça va, plus ton bras est comme pris. Puis là, à un moment donné, tu dis, bon, ben, là,
Là, j'appelle Marie-Ève.
Ouais.
Hey, oui. Mais je veux dire, je le lance comme ça, mais sincèrement, là, parce que j'aime les auditeurs, les auditrices là, qui sont là, parce que. Ça fait des années que le podcast existe. On approche là 1 million de téléchargements. Fait que ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui viennent se nourrir des mêmes propos que nous, on partage autour du bouillon, puis des mêmes choses que nous, on vit. Dans le fond, c'est juste ça qu'on fait, on partage ensemble. Puis s'il y a des gens aujourd'hui, hommes ou femmes, qui ont entendu l'appel puis qui se disent ou qu'il y a des drapeaux qui se sont levés, n'hésitez pas, juste en parler une fois.
Oui.
De pas attendre puis de dire oui, mais je vais attendre d'autres signes, je vais attendre, c'est pas si pire, ta. S'il y a une partie de nous qui doute, c'est parce que notre âme le sait déjà.
Tout à fait. Tout à fait. Exactement. D'écouter ces petites, tu sais, ces petits comme contractions-là à l'intérieur de nous qui nous dit il y a quelque chose qui marche pas, tu sais, puis ça peut être toutes sortes de ressources, tu sais, on les connaît peut-être pas toutes, mais il y a les CAVAC, il y a les maisons d'hébergement pour femmes, ils ont des services à l'externe, SOS violence conjugale, tu sais, il y en a plein de ressources gratuites auxquelles on peut faire référence. J'ai un compte TikTok, Instagram que je mets des capsules vidéo pour donner de l'enseignement.
Oui, allez voir ça. Je merci de l'ouvrir. Je veux pour ceux qui sont peut-être curieux, allez voir parce que tu en parles vraiment beaucoup sur TikTok. Là, c'est vraiment bon. Ton positionnement, il est incroyable parce que ça nous fait réfléchir.
Oui. Ben, tu sais, ça l'amène des fois. Tu vas dire, moi, je vis ça. Ah, oui, c'est de la violence. Ça, tu sais, on ne sait même pas des fois que c'est de la violence, que ce n'est pas normal.
Oui. Puis des fois, c'est juste d'en parler à notre conjoint, de dire, écoute, moi, je sens que ce genre de comportement, c'est un peu violent. Tu sais, je trouve qu'on... Puis des fois, juste d'en parler va faire un switch chez l'autre, puis ça va changer, puis la personne va dire, ben tu as peut-être un peu raison. Tu sais, puis c'est pas toujours à l'extrême que ça va s'en aller. Des fois, on peut récupérer la relation, on peut remettre des limites qui sont saines. Mais si l'autre ne le voit pas ou n'est pas du tout, n'a pas du tout envie de changer, ben là, il faut se questionner clairement.
Oui, exactement. C'est ça. Fait que c'est beaucoup se ramener vers soi aussi. Qu'est-ce que moi j'ai besoin dans une relation? Quel genre de relation j'ai besoin de vivre? T'sais? parce que ça va partir de nous. On n'a pas de contrôle nécessairement sur l'autre, tu sais. Puis souvent, on se dit, je vais le changer. Mais tu sais, est-ce qu'on change réellement quelqu'un? Est-ce qu'on a le pouvoir de changer quelqu'un? Nope. Tu sais, changer, c'est difficile. On le voit en thérapie, là. Quand que nous-mêmes, on a l'intention de changer, ça demande du travail et surtout de la conscience. Est-ce que l'autre a le goût de faire ça, tu sais?
Oui, parce que puis l'autre ne devrait jamais changer conditionnellement à quelque chose.
Ben exactement, c'est ça. Puis cette personne-là a cette dynamique relationnelle-là pour une raison, tu sais.
Voilà.
Est-ce que, comme les traits de personnalité permettent, tu sais, il y a plein d'éléments là-dedans. Fait que je pense d'obtenir du soutien puis un regard extérieur non jugeant qui va nous aider à voir notre situation avec un autre œil. Ça peut nous aider à départager qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est du contrôle, qu'est-ce qui est de la violence, qu'est-ce qui est des excès de colère, puis de voir comme, OK, maintenant que je vois ça, qu'est-ce que j'ai le goût de faire avec ça, tu sais?
Oui, tout à fait.
Puis c'est pas parce qu'on va en thérapie ou qu'on appelle qu'on est obligé de se séparer. Parce que ça, des fois, les personnes ont peur. T'sais, ils se disent, parce que si j'ouvre ça, ma psychologue va me dire, il faut que je me sépare absolument. Mais non, on va suivre ton rythme, tu sais.
Oui. Ouais. Oui, ça aussi, c'est important. Puis c'est un peu là que je voulais aller tout à l'heure, de dire, tu sais, il y a des étapes. C'est pas toujours une séparation qui devient encore plus violente. Non. Ça se peut que ce soit réparable jusqu'à un certain point ou que ça puisse se faire en douceur, tu sais. Tu l'as dit en commençant, c'est du cas par cas.
Exactement. Tu sais, c'est ça. Fait que d'avoir de l'aide, ça nous permet de sentir pas seul dans la situation. Parce que dans une relation de violence conjugale, on s'est souvent senti seul.
Et vraiment, vraiment. Ouais. Non, moi, j'étais seule au monde. Il n'y avait personne qui savait ce que je vivais. Personne.
Ouais,
j'avais honte. Je me disais, ça n'intéresse pas personne. Puis quand j'en parlais, je sentais que... Pas j'en parlais, mais quand je nommais des comportements un peu bizarres, ben je sentais que les gens comme changeaient de sujet. Fait que oui. Moi, ça a été là un sentiment. Là, je me rappelle, je me vois assise sur mon balcon là, puis à me sentir complètement seule au monde, là, dire qu'est-ce qui va arriver de moi là.
Oui. Puis seule par rapport au conjoint aussi, parce qu'on se sent complètement délaissé, tu sais, utilisé, abandonné.
Oui.
Fait qu'on même si on est en relation, on sent qu'on navigue seul. Là.
Tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Et puis là, Marie, moi, j'ai une question qui me vient. Mm-hmm. Si dans notre entourage, sœur, frère, ami, on voit quelqu'un qui est dans une relation comme ça, tu sais, des fois, de l'extérieur, on voit des choses.
Ouais.
Qu'est-ce que tu recommandes de faire? Parce que c'est, tu sais, c'est délicat, là.
Oui, totalement. Tu sais, souvent, quand on voit quelqu'un qu'on aime beaucoup subir de la violence conjugale, le premier réflexe, c'est d'aller parler à la personne qui aimait la violence conjugale. Ça, je vous dirais, c'est la pire chose à faire parce que vous allez mettre la personne que vous aimez encore plus en danger. Parce que là, c'est comme si on révèle un secret. Donc, il va y avoir des retombées, des conséquences sur elle. Et sûrement que la personne qui aimait les comportements de violence conjugale va vouloir isoler cette personne-là de vous.
Encore
donc,
plus.
Parce que vous devenez comme une menace, là, tu sais, pour sa relation. Donc, moi, ça, c'est la pire chose à faire. Fait qu'il faut comme se contrôler, là, même si on a le goût de le faire. Puis d'être à l'écoute de la personne. Donc, d'être là. Des fois, d'apporter peut-être comme, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que, ah ouais, comme, tu sais, j'ai de la peine pour toi. Ça doit vraiment pas être facile. Qu'est-ce que tu vis? Tu sais, je suis là. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? D'être plus comme dans un mode écoute et pas trop essayer de précipiter la personne à se séparer ou à sortir de la relation. Parce que ce que ça peut faire, c'est que la personne, si elle n'est pas prête, elle ne voudra pas vous entendre. Puis là, si vous faites un effet miroir, ça va être trop confrontant pour elle.
Oui.
Ce qui risque d'arriver, c'est que la personne va vous rejeter, va s'éloigner parce qu'elle ne veut pas voir, elle n'est pas prête encore. Fait que je pense qu'il faut vraiment, c'est très, très difficile parce que ça crée beaucoup d'impuissance, de sentiment d'impuissance, mais d'y aller au rythme de la personne. Et il y a aussi des services pour les gens qui sont, qui ont des personnes dans leur entourage qui vivent de la violence conjugale. Vous pouvez aller chercher des services, là, je vous parlais des SOS violence conjugale. Ça peut être une ressource, là. On appelle, on dit, écoutez, j'ai quelqu'un qui vit de la violence conjugale dans mon entourage. Qu'est-ce que vous me conseillez? On va vous orienter aussi par rapport à quoi faire ou quoi ne pas faire.
Oui, OK. Oui. Mais j'aime beaucoup quand tu dis de faire attention parce que la personne qui est prise dans une relation comme ça, elle peut peut-être qu'elle n'est pas prête à le voir ou à l'entendre.
Non.
Puis elle peut commencer à vouloir s'éloigner puis de dire peut-être que j'ai jalouse de moi ou que.
Mais oui.
Des choses comme ça là, qui fait que finalement, quand on veut aider, finalement, on perd la personne.
Oui, tout à fait. T'sais, moi, c'est souvent ce que je vais voir. Là.
Oui.
Oui, puis moi, ça m'est arrivé aussi même de repousser là, des gens que j'aimais parce qu'on me disait des choses que je n'étais pas prête à entendre. Puis les gens étaient très insistants.
Ouais.
De par une bonne intention, mais ça crée l'effet contraire. T'sais.
Oui.
Donc, c'est de tolérer son propre sentiment d'impuissance puis de dire, regarde, je vais être là. Puis quand que la personne va être prête, je vais être encore présente pour elle. Puis les gens qui ont fait ça pour moi, ça a fait une grosse différence. Vers ces gens-là, je me suis retournée quand j'ai eu le courage de me séparer, tu sais.
Oui.
Donc, les gens qui m'avaient mis beaucoup de pression, je me sentais pas entendue, je me sentais pas validée par eux, tu sais. Je me sentais jugée de pas être sortie avant, de pas avoir vu avant, d'avoir été un peu naïve. Tu sais, c'est un peu comme ça qu'on
se sent. Oui, je vois. OK. Ouais. Ça fait tout son sens.
Mm-hmm.
Bon truc. Merci pour ça. Mm. Hey Marie-Ève, écoute, je ne peux pas te remercier assez d'avoir pris ce moment-là pour venir parler de ça parce que c'est délicat. Tu vois, je pensais que j'allais être plus émue que ça.
Ouais.
En parlant avec toi, je me sentis empuissancée. Ça a fait l'effet inverse, au contraire, d'être un petit peu plus vulnérable. Je me sentis comme fière de moi.
Oui. C'est beau,
d'avoir réussi juste en parlant avec toi, puis de donner peut-être ce courage puis cette force-là à ceux, celles qui en ont besoin, peut-être qui écouteront.
Exactement. Tu sais, de redonner à ces femmes-là ce qui leur revient. Tu sais, c'est des femmes extrêmement courageuses, tu sais.
Oui.
Quand on a vécu,
résiliente.
Oui, tellement. Tu sais, fait de voir ça, je suis courageuse, je suis forte, je suis résiliente, je suis fière de moi. Tu sais, c'est tellement important. Oui, changer notre discours par rapport à la violence conjugale.
Oui, tout à fait, tout à fait. Hey, fait que je veux te remercier encore une fois.
Mille merci. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment.
Puis, on va mettre les détails de Marie-Ève dans le détail de ce podcast-là parce que n'hésitez pas. En plus, je pense que tu fais aussi des genres de thérapie de groupe. Tu offres aussi en ligne. Fait qu'on peut être de n'importe où dans le monde, dans la francophonie.
Tout à fait.
Des fois, c'est le fun aussi d'avoir une thérapeute qui habite hyper loin. Tu sais, c'est
ouais,
le fun aussi.
Ouais, fait que du en ligne, du présentiel, des groupes, donc différentes façons de pouvoir accompagner ou juste de l'information sur TikTok ou Instagram. Ouais.
Voilà, comme ce podcast qui est un canal qui est gratuit puis qui accompagne les gens à se poser des bonnes questions, ton canal sur TikTok, tu me dis TikTok puis Insta, hein?
Ouais, exactement.
Oui, donc on mettra les détails de Marie-Ève pour que vous alliez peut-être vous nourrir là, de belles pensées aussi, de stratégies, de petits outils, parce que c'est vraiment ça qu'on a besoin.
Merci beaucoup.
Merci ma belle, puis bonne fin de journée à toi aussi.
Bye.
Bye.
Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @GaïaTotal, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Wahe Guru Belam.